Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hello, c'est Laetitia.
Salut, c'est Lucille.
Cette semaine, on va parler d'un sujet qui n'est pas facile à aborder. On va tout de suite mettre un petit trigger warning, on va parler de violences gynécologiques. C'est un sujet qui est essentiel mais qui peut être difficile à écouter pour certaines personnes. On va parler de manque de respect du consentement, de pénétration forcée avec des spéculums, de mauvaises paroles, de manque de bienveillance pendant des avortements. Donc, si vous pensez que cet épisode peut vous faire du mal ou réveiller des traumatismes chez vous, ne l'écoutez pas, on ne vous en tiendra pas rigueur. Pendant très longtemps, le sujet des violences gynécologiques a été gardé sous silence, parce qu'il y avait un tabou, bien sûr, mais aussi parce qu'on nous disait que c'était normal d'avoir mal pendant un examen gynécologique. Spoiler alerte, ce n'est pas normal, et votre gynécologue n'a pas le droit de pratiquer n'importe quel type d'examen sans vous demander votre consentement, et encore moins de minimiser votre douleur. Lucille, est-ce que toi tu as déjà été confrontée à des situations de violence gynécologique?
Alors comme beaucoup de femmes en l'occurrence, ma mère m'a emmenée chez le gynéco dès que j'ai été réglée quasiment pour me mettre sous pilule. En l'occurrence, alors j'en avais besoin, j'avais déjà une vie sexuelle à défaut d'être active existante. Et du coup, le gynéco de ma mère, qui était un gynéco à l'ancienne, m'a forcé à utiliser un spéculum. En fait, il l'a carrément forcé. Alors, il y a différentes tailles de spéculum, il faut le savoir. Et en l'occurrence, les médecins peuvent utiliser le petit spéculum, qui fait quand même un peu moins mal que le moyen ou le grand. Et en l'occurrence, moi, il s'en fichait complètement. Donc, il a utilisé la taille habituelle. J'étais pas du tout OK non plus avec ça et j'étais stressée par la situation. Et en plus, je n'étais pas habillée, puisqu'il m'avait demandé de me déshabiller pour pouvoir me faire des palpations. Ça aussi, en l'occurrence, c'est pas quelque chose de OK. Ils n'ont aucune obligation à vous demander de vous déshabiller pour un examen, et encore moins à vous rester déshabillée pendant l'examen. C'est complètement déplacé. Donc, si quelqu'un vous propose de faire ça, vous pouvez complètement juste claquer la porte. Il faut pas hésiter, d'ailleurs. On a l'impression que les médecins, et en l'occurrence les gynécos, sont un peu les personnes qui ont raison, des sachants. Mais il y a plein de gestes qu'il faut pas accepter parce qu'ils ont une blouse, quoi. Donc je parle évidemment de médecins qui obligent à être entièrement nus pour faire l'examen gynécologique et qui vous laissent intégralement nus pendant cet examen aussi. Évidemment que vous pouvez déjà avoir une blouse, vous pouvez avoir vos vêtements, il peut passer sous vos vêtements, pour en l'occurrence les seins. Et puis globalement, il y a plein de gestes comme ça qui peuvent être intrusifs à certains âges, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, et même après, si vous n'êtes pas OK avec ça, il n'y a pas d'obligation à vous toucher et encore moins à aller voir avec le spéculum ce qui se passe par-dessous. Si vous ne vous sentez pas OK avec ça. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille maintenant, c'est d'aller voir plutôt une sage-femme, qui sont des personnes qui ont des gestes, alors peut-être pas toutes, évidemment, mais qui ont des gestes un peu plus doux et un peu moins dans l'intrusion que les gynécologues peuvent être, surtout les anciens. Et toi, Laetitia, est-ce que c'est une situation que tu as connue ?
Bah écoute, moi aussi, j'ai connu des violences gynécologiques. Moi, j'étais un petit peu plus âgée parce que quand j'ai entamé ma vie sexuelle, j'ai pris la pilule grâce au planning familial et dans mon planning, il ne faisait pas de consultation gynécologique. Du coup, j'ai commencé à fréquenter un gynécologue quand j'avais 18 ans. Je n'avais plus le droit à la pilule qui était gratuite étant donné que j'étais mineure, donc je voulais me faire prescrire une contraception. Je suis tombée chez une gynécologue très désagréable qui a déjà eu des gestes très brusques, mais en soi, c'est pas ça qui m'a le plus traumatisée. Moi, c'était vraiment plus des violences psychologiques. Parce que cette femme a refusé de me prescrire une contraception en me disant « De toute façon, vous êtes trop grosse pour avoir une vie sexuelle régulière et pour avoir un risque de tomber enceinte. » Donc, pour référence, à l'époque, je faisais 65 kilos pour 1m60. Donc, j'étais loin d'avoir une IMC supérieure à la normale.
Belle grossophobie.
Voilà, donc belle grossophobie. À la suite de ça, moi, j'ai vraiment été traumatisée. Donc, j'ai pas eu de suivi gynécologique pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'allais à la pharmacie et je disais « Oui, j'ai perdu mon ordonnance de pilule. Est-ce que vous pouvez me redonner une boîte ?» Je pense que j'ai fait toutes les pharmacies de Paris. Du coup, je payais ma pilule plein pot. Mmh. Et après, j'ai arrêté de prendre la pilule, tout simplement, jusqu'à tomber sur la gynécologue qui me suit maintenant depuis 7 ans, qui est formidable, qui m'a expliqué que, bah, effectivement, je n'avais pas besoin de me déshabiller entièrement pour avoir les examens, qui m'a proposé de me donner... Elle m'a donné un spéculum pour que je puisse m'entraîner moi-même à l'utiliser, qui m'a dit, avant même notre premier rendez-vous, « Venez en robe, comme ça vous pouvez garder quelque chose qui vous couvre pour vous sentir plus à l'aise. » Et là, plus récemment, c'est dans mon parcours de PMA que j'étais confrontée à de l'homophobie et à de la transphobie gynécologique. Donc, ma compagne est une femme trans. Quand on a contacté le premier hôpital où on envisageait de faire notre PMA, on a vraiment eu un discours à base de « puisque madame a un pénis, pourquoi est-ce que vous faites pas papa dans maman ?» C'était vraiment comme ça qu'on nous l'a dit. Donc, c'est des propos qui sont en fait pas tolérables. On nous a même dit dans l'hôpital où on est suivi aujourd'hui qu'on aurait pu contacter l'ordre des médecins ou le défenseur des droits pour dénoncer ce genre de choses. On l'a pas fait parce qu'on est des meufs sympas. Mais voilà, ce sont des choses qui ne sont pas normales.
Et puis, c'est pas des choses qui sont très écoutées. En réalité, le Conseil de l'Ordre des médecins minimise énormément les violences gynécologiques. On le voit à chaque fois. Il y a de plus en plus de témoignages de femmes, justement, au fur et à mesure où la parole se libère, il y a des femmes qui en parlent. Et les médecins eux-mêmes minimisent énormément cette chose-là.
C'est vrai que les médecins s'étaient beaucoup énervés, notamment contre le site Gynenco, qui propose une liste de gynécologues safe, en disant que on ostracisait des médecins, que clairement les femmes étaient des grosses fragiles qui ne comprenaient pas que un examen gynécologique c'était obligatoirement invasif. Voilà, ça, il y a vraiment eu plein de discours, alors que il n'y a pas de chiffres officiels sur les violences gynécologiques, en tout cas j'en ai pas trouvé. Mais que ce soit à travers le hashtag « Paye ton utérus » sur les réseaux sociaux, les différentes plaintes qui ont été portées contre des grands pontes de la gynécologie ou les témoignages qu'on peut voir un peu partout, on sait que ça concerne plusieurs milliers de femmes, rien qu'en France. Y a même quelque chose de plus grave qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je ne sais pas si ça se passe aussi en France. Dans les hôpitaux qui font aussi école, visiblement, ils se servent des femmes qui sont sous anesthésie générale et il leur impose, sans leur dire, des examens pelviens pour que les élèves apprennent à les faire.
Alors moi, j'ai déjà vu, en l'occurrence, sur Twitter, des médecins dire que c'était effectivement une pratique, quelque chose qui se pratiquait en France. Alors, peut-être pas forcément au niveau gynécologique, mais qu'en tout cas, profiter des gens qui sont sous anesthésie pour faire des choses ou pour regarder des choses, j'ai déjà vu des médecins en parler, ouais. Et pas comprendre en quoi ça pouvait être un problème.
Oui, parce qu'ils se disent la personne ne s'en souvient pas, elle n'en a pas conscience, donc où est le problème ?
Et puis elle consent à quelque chose de médical, puisque du coup elle est là pour quelque chose de médical. Sauf qu'on consent pas à tout en fait. C'est pas parce qu'on a dit oui pour une chose qu'on est d'accord pour tout le reste, et encore plus quand on est endormi.
Alors sur Instagram, on vous a posé la question des violences gynécologiques et on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages. On pourra pas tous les diffuser dans cet épisode, sinon ça nous ferait un épisode qui ferait 10 heures à peu près. Mais on en a sélectionné quelques-uns. Le premier qu'on va écouter, c'est le témoignage d'Audrey qui nous raconte comment elle s'est fait retirer son stérilet sans la moindre patience.
Hello Laetitia. Quand j'ai dû retirer mon stérilet parce que ça me convenait pas du tout, j'ai pris un gynécologue un peu d'urgence, un peu au hasard. Et vraiment, il était pas du tout patient et doux. Et il a même perdu patience, vraiment, mais à même... Enfin, moi, je l'ai pris comme une certaine violence, de me dire « Ah, écartez les jambes !» Il m'a repris plusieurs fois, en me faisant presque un mouvement pour que j'écarte les cuisses, quoi. Et j'ai un moment, je me suis redressée, j'ai dit « Par contre... » Par contre, non. Non, non, c'est pas vous qui avez les jambes écartées. Ça prendra le temps que ça prendra, monsieur. Mais non. Non, non. Et je me rappelle qu'il... Ouais, ça l'a un peu calmé.
Voilà, donc là, on a un exemple typique des comportements en fait qui ne sont pas acceptables. Votre gynéco n'a pas le droit de minimiser votre douleur déjà dans un premier cas, et encore moins de vous toucher et de vous forcer à écarter les cuisses. C'est un geste qui est quand même très intime, c'est un geste qui peut déclencher plein de choses, plein de traumatismes.
Assez violent.
Voilà, enfin, je veux dire, pour moi, on me dit forcer à écarter les cuisses, je pense automatiquement à un viol. Mm. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Donc voilà, si jamais vous tombez sur un praticien qui vous impose ce genre de geste, rhabillez-vous et partez. Vraiment, parce que c'est votre intégrité qui se retrouve en danger, en fait.
Et puis, il faut le dire, hein, le stérilet, ça peut être douloureux à la pose et à la dépose. Mmh. Et donc, du coup, un médecin qui direct te dit qu'il faut un peu serrer les dents, que ça peut passer, que c'est pas grave, c'est un médecin qu'il vaut mieux pas revoir. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de me faire retirer un stérilet par, en l'occurrence, une sage-femme. Et c'est possible d'aller voir ça. Il y a des généralistes qui le font aussi. En gros, il faut trouver une personne qui va aussi admettre que c'était quelque chose qui peut être douloureux, voire très douloureux, et qu'il faut le faire bien et qu'il faut prendre le temps de le faire bien. Donc oui, moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de médecins qui disent « Oh là là, franchement, vous vous plaignez quand même facilement de la douleur pour ce geste-là. » Et puis il y a aussi tous les médecins qui refusent de poser un stérilet, en l'occurrence à des femmes plutôt jeunes.
Qui n'ont pas eu d'enfants encore.
Exactement. Donc ça c'est pareil, un médecin qui va vous dire « Je ne pose pas de stérilet à une femme qui n'a pas eu d'enfant », c'est un médecin qu'il vaut mieux pas revoir. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix, je sais que c'est pas toujours pratique dans certaines villes de trouver déjà un gynéco de base, mais encore une fois, il y a des solutions avec des généralistes, avec des sages-femmes. N'hésitez pas à aller chercher justement si d'autres personnes sont disponibles, parce que ces médecins qui tiennent ce genre de propos, c'est pas OK du tout.
Alors, on parlait tout à l'heure du fait que nous, nos premières expériences avec des gynécologues ont été marquées par des violences gynécologiques. C'est aussi le cas pour Clémence, qui nous raconte donc dans un message vocal sa première fois avec une gynéco, une femme, je précise, et c'est important de le préciser.
C'était la première fois que j'allais voir un gynéco. Une gynéco, en l'occurrence, c'était une femme. On a d'abord eu une consultation assez classique puisqu'on a discuté pendant longtemps sur son face à son bureau. Elle m'a demandé à ce moment-là si j'avais déjà eu une relation sexuelle. Je lui ai répondu que oui, mais j'avais 16 ans et c'était vraiment mes tout premiers émois, on va dire. Et juste après, en fait, ça a commencé à devenir compliqué lorsqu'elle a voulu m'ausculter. Et en fait, elle m'a donc déjà demandé de me mettre nue, effectivement, ce qui est assez logique. Et elle m'a tâté la poitrine de manière assez intense et presque violente en cherchant, en fait, s'il n'y avait pas des choses inhabituelles. Mais donc, c'était assez perturbant pour moi. Et juste après, on est allé dans l'autre partie de la salle où donc elle m'a demandé de m'allonger. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a inséré l'outil d'échographie sans me demander mon avis avant, sans me préciser ce que c'était et qu'il fallait l'insérer, sans m'expliquer quoi que ce soit. Et ça m'a fait très mal, donc je lui ai dit. Et elle m'a dit « Ça va, t'es une femme maintenant ». Donc c'est une citation réelle qui tourne en tête, dans ma tête depuis longtemps. Et voilà, ça m'a énormément choquée, énormément marquée. Et je suis retournée la voir parce que je pensais que c'était du coup la réalité des consultations gynécologiques, avant de trouver d'autres gynécologues, bien sûr, qui ont été beaucoup plus doux et qui m'ont demandé l'autorisation avant auscultation et avant notamment cet outil de échographie qui doit être inséré et qui m'ont bien sûr expliqué comment ça allait se passer et tout ça.
Je pense que c'est important de dire qu'une pénétration forcée, en l'occurrence, ça rentre dans le cadre de la loi et du terme viol, ou en tout cas agression sexuelle. Et là, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller porter plainte. Il n'y a pas forcément besoin d'écrire à l'ordre des médecins. On va directement à sa gendarmerie ou à la police. Si on s'en sent capable, hein, y a peut-être plein de cas où on ne va pas s'en sentir capable, où on va se sentir d'abord traumatisé. Mais si on fait ce genre de geste sur vous et que vous arrivez à être en colère de ce geste, n'hésitez pas à aller porter plainte, vous êtes tout à fait légitime à le faire.
Oui, voilà, parce qu'on rappelle que même si c'est un examen gynécologique et qu'on a conscience qu'il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau de notre intimité, normalement, les médecins sont censés nous prévenir avant de nous pénétrer, que ce soit avec un spéculum pour un frottis ou avec une sonde pour faire une échographie pelvienne.
Et ils ont besoin de demander notre consentement.
Alors, le prochain message qu'on a, c'est quelque chose dans lequel je pense beaucoup de femmes vont se reconnaître parce que ça concerne l'endométriose et c'est Nell qui nous raconte la situation absolument atroce à laquelle elle a été confrontée il y a quelques années.
Donc, j'ai de l'endométriose diagnostiquée depuis 2017 et du coup, j'avais un suivi à faire et un IRM pour vérifier l'endométriose et j'avais jamais fait d'IRM vu qu'on m'avait détecté mon endométriose par échographie. Et je ne savais pas qu'il y avait énormément de règles, alors peut-être que ça dépend de l'endroit où on effectue l'IRM pelvien. Mais moi, vraiment, j'avais une liste de choses, de produits à acheter. Enfin, je savais qu'un IRM, on pouvait te mettre une piqûre avec un produit. Mais là, du coup, dans l'hôpital où j'ai passé l'IRM, en Essonne, près de là où j'habitais, c'était un produit qu'il fallait injecter vaginalement et analement au moment de l'IRM. Mais avant ça, du coup, fallait faire un lavement. Donc déjà, un peu expérience un peu traumatisante quand on a que la vingtaine. Du coup, j'avais jamais fait ça. Et en fait, c'est vraiment la violence de la médecine aussi, où en fait, fallait que j'arrive à l'hôpital et que je sois déjà lavée. En fait, il y a personne pour m'aider. Il faut faire tout seul. Ça, c'est super difficile à faire. Mais surtout, je me rappelle que quand j'arrive pour faire l'IRM et que voilà, une fois que t'es déshabillée, etc., que l'infirmière me demande si j'ai bien ramené du coup ce produit qu'on va m'injecter vaginalement et analement, je lui dis oui, et donc elle me demande de monter sur la table de l'IRM et elle me dit bon bah voilà, il va falloir mettre le produit, je te laisse faire, t'es assez grande quoi. Je dis oui, mais bon, enfin moi j'ai de l'endométriose, je suis là pour ça, j'ai des douleurs, donc je peux pas. Enfin, genre, je vais prendre mon temps, en fait. Et elle me dit, ah non, bah, j'ai pas le temps, il y a d'autres mondes et tout. Il y a d'autres gens après toi, donc... Et en fait, elle me prend la boîte des mains, et c'est une espèce de seringue, mais... Il y a pas d'aiguille, si tu veux, c'est genre juste une seringue. Et en fait, je lui ai vraiment dit, oui, enfin, je veux bien que vous le fassiez, mais genre, j'ai de l'endométriose, j'ai vraiment mal à la pénétration vaginale, donc... Et en fait, elle a pas du tout été douce, elle a fait super vite. Elle m'a fait giga mal. Et du coup, le réflexe de mon corps, ça a été de se contracter parce que, voilà, elle est rentrée violemment. Elle m'a fait supra mal. Et donc, du coup, vu que je me suis contractée, en fait, le liquide n'est pas rentré. Il est ressorti. Et du coup, je me suis fait engueuler comme du poisson pourri parce que, du coup, j'avais foiré et qu'il fallait un autre produit et que moi, j'en avais ramené qu'un. Donc, elle devait prendre dans les réserves de l'hôpital. Et heureusement que l'hôpital, il faisait des réserves. Enfin, ça a été horrible, sachant qu'elle a dû... Du coup, fait la même chose analement. Elle m'a dit, c'est mort, c'est moi qui te le fais, t'es incompétente. Et pour le coup, j'étais, on va dire, vierge de l'anus. Donc vraiment traumatisant d'avoir une personne aussi violente me mettre la seringue avec le produit alors que j'avais jamais rien fait. Enfin, c'était vraiment... Et pourtant, je l'ai verbalisé, ça, en fait. Et juste, elle a été violente dans ses gestes, violente dans ses paroles, et je me suis sentie horrible. Et j'ai passé un très mauvais IRM, qui n'est déjà pas une partie de plaisir. Mais j'ai ensuite appris par d'autres connaissances que, en fait, ça devait être sûrement que l'hôpital où j'étais, parce qu'ils ont fait un IRM pelvien, mais ils ont fait la piqûre, en fait. Le produit leur a été mis par intraveineuse, et non pas localement, comme moi, ça avait été fait.
Alors, c'est pas la première fois qu'on apprend, comme le dit Nel dans son témoignage, qu'il y a des hôpitaux où il y a eu des mauvaises pratiques pendant des IRM. Il y avait une affaire qui avait fait la une des médias, d'ailleurs, sur le même hôpital, je pense, en 2018 ou en 2019. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est que ce genre d'examens qui sont très brutaux et ce genre d'attitude, ça crée des véritables traumatismes et que y a des personnes qui, du coup, après, ne se font pas suivre par des médecins pendant des années, voire des dizaines d'années, et que ça met leur santé en péril, tout simplement. Le dernier témoignage que j'ai eu envie de vous faire écouter, c'est celui de Laura, qui va nous raconter les violences gynécologiques qu'elle a subies pendant son avortement.
Outre le fait que pour la plupart des hôpitaux, le système fait que quand tu viens pour un avortement, tu te retrouves dans la partie dédiée à la maternité de l'hôpital. Et donc, c'est hyper violent pour toi qui viens avorter parce que tu es au milieu des ventres ronds, des cris des bébés, enfin de tout ce que tu ne veux absolument pas à ce moment-là. Mais je trouve que c'est aussi hyper violent pour toutes celles qui, elles, viennent avec l'espoir d'avoir un enfant. Et c'est un peu, toi t'es là et coucou, moi j'ai ce que tu veux et j'en veux pas. Enfin, tu vois. Bon, ça déjà, c'est horrible. Et vraiment, j'ai souvenir, moi, donc d'avoir déjà très très mal vécu ça, la salle d'attente au milieu des femmes qui, elles, étaient radieuses d'avoir un enfant, etc. Le médecin qui t'appelle. les femmes qui du coup te regardent parce que dans la salle d'attente, enfin bref, voilà, il y a rien de méchant là-dessus, mais qui directement posent un jugement sur toi parce que ça se voit que tu es jeune, parce que tu n'as pas du tout un ventre un peu rond, parce que ça se voit que tu es toute repliée sur toi-même, et bref, que tu es complètement mal. Et cette gynécologue qui du coup vient faire l'échographie pour dater de quand de quand date tout ce merdier, et qui ne te prévient pas et te tourne l'écran et te dit ah bah là vous voyez ici là on distingue un peu la tête machin et non en fait moi je ne t'ai rien demandé, moi je ne voulais rien savoir, je viens là parce que c'est obligatoire et parce qu'il faut passer une écho en plus de la prise de sang qui elle déjà m'avait bien mis dans la gueule que j'étais enceinte. Donc à aucun moment j'ai demandé à entendre, à aucun moment j'ai demandé à voir. Je suis déjà mal et qui en plus du coup toi t'es là, tu me montres tout ça et tu me prends de haut parce que tu me dis mais vous êtes sûr que vous le voulez pas ? En fait tu es en train de me faire une échographie, donc tu vois l'intérieur de mes entrailles, tu vois que j'ai un stérilet. À quel moment tu te dis que si j'ai un stérilet et que je suis enceinte, enfin c'est que je l'ai voulu de A à Z. Enfin bref, voilà, bref, je t'avoue que c'est le point qui... Ça fait longtemps maintenant, ça fait très longtemps, ça va presque faire 10 ans, et ça m'énerve encore, et en fait, au fond, ça me blesse encore.
Alors, on croit que c'est vraiment un truc d'Américains, justement, qui sont assez contre l'avortement dans des cliniques où, justement, on vous montre à quel point vous avez déjà un bébé et que du coup, un avortement, c'est quelque chose d'hyper négatif sur lequel vous devez prendre une responsabilité presque morale. Et en l'occurrence, non, on en trouve aussi en France.
Et alors, il y a une légende urbaine qui tourne beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux qui dit que les gynécologues et les sages-femmes sont obligés de vous faire écouter le cœur du bébé quand vous demandez un avortement. Sachez que c'est absolument faux. Lucille, toi aussi, tu as reçu des témoignages de la part de tes abonnés sur Instagram ?
Exactement. Alors, je vous en ai choisi un parce que du coup, il parle de quelque chose de différent des témoignages que tu as choisi toi. Il parle d'une fausse couche, qui est une situation déjà assez traumatique, difficile à vivre pour énormément de femmes, surtout qu'elle a été grandement minimisée et qu'il y a une chape de plomb, de silence sur cette question-là. Donc, je vais vous le lire. Je commence à saigner, je vais au cabinet de mon gynéco. Je parle avec sa secrétaire et elle me dit d'attendre dans la salle d'attente avec une tache de sang immense dans mon pantalon. Elle me dit qu'elle va le prévenir. Il sort et devant toute la salle me dit que si je n'ai pas de rendez-vous, il faut que je prenne un rendez-vous. Je lui explique, devant tout le monde, que je suis en train de saigner et j'ai mal. Il dit qu'il ne peut rien faire sans rendez-vous. Je pleure et une de ses patientes lui dit qu'elle me cède sa place et il insiste sur le fait que je n'ai pas de rendez-vous. C'est sa secrétaire qui a eu pitié de moi et m'a envoyée direct chez l'échographe pour me confirmer que j'étais bien en train de faire une fausse couche et qui m'a conseillé de changer de gynéco.
Ça me rend malade de lire ce genre de choses et d'écouter ce genre de choses parce que quand on veut un enfant... vivre une fausse couche, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant. Et d'être confronté à si peu de bienveillance, à tel point que là, c'est vraiment de la malveillance pour moi. C'est de la maltraitance. T'as un médecin qui t'humilie publiquement devant tout le monde, qui n'accepte même pas la sororité des patientes dans la salle d'attente. Là, encore une fois, pour moi, quand on saigne pendant une fausse couche, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire qu'on a un risque d'infection.
Bien sûr.
On peut avoir toutes sortes de problèmes.
On peut faire une hémorragie aussi.
Voilà, on peut faire une hémorragie. Donc en fait, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et encore une fois, c'est répréhensible par la loi.
Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu exactement ça. C'est que j'ai fait une hémorragie à cause d'une fausse couche et que je me suis retrouvée à subir des gestes. En l'occurrence, le médecin qui décide devant tous ses internes de m'examiner et puis de mettre carrément sa main pour aller chercher les morceaux qui étaient bloqués et qui provoquaient mon hémorragie. J'ai vraiment explosé en sanglots pendant cet examen qui a été fait évidemment sans aucune anesthésie.
Évidemment.
Et en l'occurrence, j'en ai gardé vraiment un souvenir extrêmement traumatique, déjà parce que j'avais envie d'avoir cet enfant, mais aussi puisque du coup, ça a été très minimisé, c'est-à-dire, c'est pas grave, vous recommencerez le mois prochain.
J'ai même pas les mots pour commenter ce genre de situation parce que c'est vraiment de la bassesse humaine, quoi. C'est même pas humain pour moi, ce genre de comportement. Et si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas en colère, c'est que vous manquez probablement d'empathie. Alors, ces dernières années, il y a eu beaucoup de violences gynécologiques qui ont fait la une des journaux, à tel point que le 4 juillet 2022, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a saisi le Comité consultatif national d'éthique, qui a rendu le 29 mars 2023 un rapport sur les violences gynécologiques et obstétriques. Je me suis lu tout ce rapport parce que forcément c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est un sujet qui est important. Donc je vous ai sélectionné quelques extraits. Le rapport précise notamment que le soin comporte nécessairement un moment d'objectivation dans la mesure où il est nécessaire de se focaliser temporairement sur une pathologie ou un organe, mais rappelle qu'une prise en charge bienveillante de la personne et la nécessité d'instaurer une relation de confiance et de proposer un schéma ou un rythme de consultation respectueux du temps nécessaire au patient pour accepter de se dévoiler est essentiel. Alors le rapport préconise aussi une liste de bonnes pratiques. Je cite « Les praticiens et praticiennes doivent être attentives aux expressions de douleur ou d'inconfort pendant la réalisation des examens, que celles-ci soient verbales ou non verbales. Le sentiment de violence subi lors d'examens inconfortables ou douloureux ne doit jamais être nié ou minimisé, et il est recommandé aux praticiens et praticiennes d'effectuer un recueil oral du consentement, qui paraît ainsi préférable à un consentement écrit, accompagné d'une traçabilité précise dans le dossier du patient. » D'ailleurs, le rapport précise, et je cite, « qu'un formulaire écrit ne protégerait ni les patients d'actes qu'ils ou elles ne souhaiteraient pas subir, ni les soignants de poursuites judiciaires a posteriori. » Donc, sachez que si votre gynéco ou votre sage-femme ou votre médecin vous a fait signer un document de consentement, cela n'a aucune valeur légale. Le rapport conclut que certains examens invasifs et inconfortables sont nécessaires pour la prévention, et ça, on en a parfaitement conscience. Typiquement, les frottis, c'est quelque chose qui est essentiel pour le diagnostic et la prise en charge, mais qu'il est indispensable d'expliquer pourquoi et de prévenir les patientes en amont du risque d'inconfort ou de douleur. Donc voilà, le rapport dit clairement que les médecins n'ont pas le droit de vous faire d'examen sans vous avoir prévenu, sans vous avoir expliqué pourquoi, sans vous expliquer en quoi ça consiste. Parce qu'il y a une différence entre dire « je vais vous faire un frottis » et dire « je vais insérer un spéculum et utiliser une espèce de coton-tige pour vous titiller le col de l'utérus et récupérer des cellules ». Et c'est la preuve que voilà, ils recommandent vraiment de prévenir les patients et les patientes qu'il peut y avoir un vrai inconfort, une vraie douleur, et que voilà, ils seront écoutés si c'est le cas.
Un peu avant, tu nous parlais du site Gyn&Co pour avoir des recommandations de gynéco safe, c'est-à-dire qu'il y a des listes de gens qui sont des gens qui vont potentiellement accepter ou bien traiter même des personnes grosses, des personnes trans. Il y a plein de listes comme ça, donc n'hésitez pas à vous référer à cette liste, même si vous n'êtes pas forcément concerné, parce que du coup, ces gens potentiellement vont mieux vous traiter qu'un gynéco pris au hasard. Évidemment, on vous mettra le lien vers le site Gyn&Co dans la description.
Voilà, et comme le disait Lucille, vous pouvez aussi aller voir des sages-femmes. Vous pouvez même, si vous avez une bonne relation de confiance, aller voir directement votre médecin traitant, qui est tout à fait apte, par exemple, à vous prescrire la pilule ou à vous faire un frottis, si jamais vous en avez le besoin. Moi, mon petit conseil perso, c'est aussi d'aller lire les commentaires sur Google. Parce que les gens le disent directement quand ils ont eu des mauvaises expériences. Mais pour ce genre de praticiens et de praticiennes, ils le disent aussi quand ils ont eu des bonnes expériences. Moi, c'est le cas que j'ai eu très récemment. Dans le cadre de ma PMA, je devais aller passer des examens gynéco qui sont assez douloureux et assez invasifs. J'étais terrorisée à l'idée de me retrouver dans le centre qui était recommandé par ma gynéco parce que tous les praticiens étaient des hommes. Et je suis tombée sur une équipe d'une bienveillance et d'une gentillesse que la première chose que j'ai faite en sortant, c'est d'aller mettre un commentaire sur Google pour leur dire à quel point ils avaient été formidables.
Oui, parce que du coup, choisir une femme, forcément, n'est pas quelque chose qui vous protège particulièrement. Il y a des femmes gynéco qui sont aussi extrêmement, parfois, dures, voire qui peuvent faire du mal.
Voilà, effectivement, c'était pas un épisode qui était parmi les plus drôles qu'on ait fait. C'était pas un épisode qui était facile à faire pour nous non plus et qui sera probablement pas facile à écouter. Mais pour nous, c'était un sujet qui était hyper important. Donc merci de nous avoir écoutés là-dessus.
Laetitia et Lucille présentent Le Sexe, c'est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.
À bientôt.
À la semaine prochaine.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.